Donc, le titre est « Livre du père, place du fils, la virilité au miroir du récit de filiation actuelle ». J'ai choisi d'entreprendre la question qui nous occupe par le biais d'un genre littéraire. Je ne prétends pas que ce soit la voie la plus autorisée. Il s'agit d'une interprétation parmi d'autres du moment contemporain, et c'est précisément à ce titre qu'elle me retient. L'appellation « récit de filiation », aujourd'hui à peu près acclimatée, désigne des récits écrits par les fils et par les filles à propos de leurs ascendants. Avant l'officialisation de la chose, on trouverait, exemplairement, le « Livre de ma mère » d'Albert Cohen ou le « W » de Georges Perec, ou plutôt, dans le 20e siècle, « Sido » de Colette. Des textes portant les traits de ce qui, aujourd'hui, s'appelle ainsi. Mais de fait, on repère une inflexion dans les années 80 et une tendance qui n'a cessé de se confirmer depuis, si bien que l'on peut citer aujourd'hui un grand nombre de textes, pas seulement français d'ailleurs, dans lesquels un descendant tente, à travers le récit de l'autre, père, mère, aïeux, de se ressaisir dans un héritage. Ainsi, on a pu dire que ce nouveau genre est devenu un substitut de l'autobiographie. De façon assez surprenante, quelques œuvres remarquables se sont imposées et ont été rapidement agréées comme des classiques. C'est notamment le cas de « La place » d'Annie Ernaux, de « Vie minuscule » de Pierre Michon, deux auteurs dont Dominique Viard affirme en 2005 qu'à eux deux, ils dessinent l'empante du récit de filiation actuel. Hasard ou non, ces deux textes contiennent pour nous plus d'une instruction relativement à la question générale du genre. On conçoit qu'un sujet adulte se retournant vers ses origines et entreprenant de se ressaisir dans un héritage soit conduit jusque dans la cellule familiale qu'il a vu naître et grandir et dont lui-même a été témoin. Les modèles parentaux sont les premiers à s'offrir et c'est là que s'est formée la première idée du masculin et du féminin, ainsi que des rôles correspondants. Idée destinée à évoluer tout le temps, de la coexistence jusqu'à la disparition des parents et même au-delà, car le temps de la filiation excède celui de leur existence. Ce n'est pas par hasard que le récit s'écrit souvent après leur mort, à plus ou moins grande distance de celle-ci. En principe, je devrais laisser de côté le livre d'Annie Ernaux, puisque c'est le livre de la fille sur le père, l'ouvrier devenu propriétaire d'un café-épicerie dans une petite ville normande des années 50 et 60. Précisément, ce petit commerce est tenu à deux, par le père et la mère, à égalité de force. Or, celle-ci est la qualité virile par excellence, qualité de genre et de classe qui s'entend comme force de travail, endurance, capacité violente de faire, couplée à la violence du dire. Si la mère possède les traits de la féminité, c'est une belle femme selon les codes du milieu, elle détient clairement la fonction symbolique traditionnellement dévolue à l'homme. Le cas de Michon n'est pas moins intéressant. Lui-même se dit fils d'absent, c'est-à-dire fils d'un père qui très tôt fit défection et pour cette raison devenu inaccessible et caché comme un dieu. En raison d'une défaillance générale des branches mâles, le sujet reporte l'image paternelle sur d'autres figures, reculées dans le temps. Parmi celles-ci, on compte un aventurier parti chercher fortune en Afrique noire et y mourant assassiné, un fils failli chassé de la ferme familiale par son père et tournant à la légende, deux condisciples de collège du narrateur qui sont frères ennemis, un bel abbé à la parole rutilante que connut Michon catéchiste, devenu pochard et qui a une fin franciscaine, un ancien meunier analphabète rencontré à l'hôpital où le narrateur a échoué après une rixe. Avec ces figures interposées, on est loin de la virilité dans son acception ancienne et noble d'accomplissement justement distingué par Georges Vigarello. Toutes sont des figures de l'échec, quoique le ratage en grande touche, parfois au sublime. Aucune de ces huit vies n'est explicitement consacrée à Pierre Michon, mais à travers elle court son autoportrait, qui n'est guère flatteur. C'est celui d'un être empêtré dans ses vices, notamment l'alcool, attardé dans sa vocation, jouant à la comédie de l'écrivain, polichinelle qui veut faire l'auteur, balançant entre grâce et imposture. Quant à la force virile, au sens physique et sexuel, elle ne peut guère être mise à son crédit. L'amante qui a soin de lui, qui croit en son talent, finit par l'abandonner dans un état lamentable. Il y a, dans « Vie du père Foucault », cette scène où le narrateur ivre provoque dans une brasserie un matamore qui se donne en spectacle devant un public femelle. S'ensuit une joute verbale entre les deux hommes, puis une sévère correction est infligée au narrateur, laissé pour mort. L'agone verbale et physique a tourné au désastre, échouage du mâle et de l'auteur. Malgré leur prestige de classique contemporain, nous ne pouvons rester prisonniers de ces deux références et il faut tenter une vue d'ensemble qui donne une idée de la variété du récit de filiation actuel. Risquons-nous à une typologie des pères considérés comme modèles premiers proposés au fils? Sans omettre donc le cas de l'orphelin, ne serait-ce qu'en raison de l'affirmation dérangeante de Sartre déclarant sa chance d'être né d'un mort. Je cite Sartre, « Eût-il vécu, mon père se fût couché sur moi de tout son long et m'eût écrasé. Par chance, il est mort en bas âge. Au milieu des aînés, qui portent sur leur dos leurs enchises, je passe d'une rive à l'autre, seul et détestant ces géniteurs invisibles à cheval sur leur fils pour toute la vie. » Fin de la citation. La leçon sartrienne n'est pas perdue et de cette engeance irrespectueuse, nous trouvons un représentant vigoureux en la personne de Pascal Bruckner. L'auteur d'Un bon fils paraît en effet prolonger le raisonnement de son aîné, je le cite, « Rien de plus difficile que d'être père. Héros, il écrase de sa gloire, salaud de son infamie, ordinaire de sa médiocrité. » Fin de la citation. L'outrance de cette tripartition peut heurter, mais il faut convenir qu'elle a une certaine pertinence rapportée au texte concret. Commençons précisément par répondre à la provocation du cas le plus outré, celui du salaud, suivant la terminologie de Bruckner. Il correspond notamment à ces pères qui portent jusqu'à la caricature les traits de la virilité. Non seulement ils font montre d'ascendant physique explicitement ou implicitement sexuel, mais ils exercent aussi une suprématie psychologique et idéologique sur leur entourage, persuadés qu'ils sont de la vérité de leur système d'idées et de valeurs. Je m'en tiendrai à deux exemples, en commençant par celui de Bruckner lui-même. En fait, de bon père, le sien fut particulièrement néfaste. Physiquement, il correspond au stéréotype de l'Aryen dans la propagande, grand pour les critères de l'époque, les cheveux blonds épais, presque roux, les yeux gris-bleus, le nez droit, le front large. Toutes les occasions lui sont bonnes pour exercer sa puissance et éclater dans son foyer, selon des scénarios réglés, en fait une mécanique infernale tenant du théâtre, qui a besoin d'une victime et d'un public. De ces jeux sadiques, le fils et surtout la mère sont les victimes désignées, le premier voulant sauver la première et rêvant la mort du tyran. Or, celui-ci survivra de beaucoup à son épouse et dans ses vieux jours s'imposera même à son fils, pesant enchée sur ses épaules, conformément au pronostic sartrien. Car il démontre une étonnante longévité, comme s'il était conservé par la virulence de ses passions racistes et antisémites. Il a admiré Hitler, a été volontaire du STO. Son fils le qualifie de « Gauleiter d'opérette ». Quoi qu'ironique, la formule souligne la part d'empoisonnement idéologique qui aspire à se transmettre par le lien de filiation. En vain, car le fils résiste et les engagements de Pascal Bruckner, comme intellectuel, sont nettement orientés dans d'autres directions. Sur ce fond de conflit idéologique, on pourrait suivre dans le récit l'isotopie militaire. Venu de l'ancienne virilitas, dégénérant en controverse entre les deux hommes et se soldant par la défaite de l'ascendant, tandis que son fils peut écrire en conclusion, je cite, « J'ai une certitude, mon père m'a permis de penser mieux en pensant contre lui. Je suis sa défaite, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. » Autre sujet de gloire, la citation continue, « Je me réjouis d'avoir corrompu notre patronyme de l'intérieur, de l'avoir rattaché malgré moi à la famille mosaïque. » La virilité prise dans son sens premier est au centre du second exemple, en raison même de son projet auto-socio-biographique, dans l'esprit d'Annie Ernaux et de Didier Héribon. En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis montre de manière précise comment un sujet qui très tôt reconnaît en lui sa différence, une différence n'échappant pas à son entourage, peine à vivre ou à survivre dans le milieu le plus contraire qui soit, la Picardie ouvrière, éloignée des grands centres, condamnée à la pauvreté et à la promiscuité de ses habitations. La virilité y est une valeur indiscutée et hautement transmissible. C'est même la première des valeurs à transmettre inscrite en un mot, un idiotisme qui tient en trois lettres, dur, être un dur. Au village, il n'importait pas seulement d'avoir été un dur, mais aussi de faire de ses garçons des durs. Un père renforçait son identité masculine par ses fils. Avec cette injonction à laquelle le sujet échoue à se conformer, le patronyme et le prénom constituent la triple empreinte virile qui doit sceller le destin du futur homme. Cela s'accompagne d'une série de prescriptions concernant le comportement, les interactions avec autrui, la tenue du corps, le vêtement et bien sûr le langage, les « façons de parler », dirait Erving Goffman, qui serait tout indiqué pour décoder cette éthologie de la virilité avec ses territoires propres. Le titre du livre est tout à fait motivé. Se défaire de l'identité imposée pour vivre un destin homosexuel, c'est ici s'extraire du monde du père, changer de place au sens d'Annie Ernaux, émigrer dans un nouveau monde social où les normes de genre sont tout autres, où virilité et féminité sont devenues poreuses. La conclusion, en forme de salut, d'en finir avec Eddie Bellegueule, n'est cependant pas le dernier mot du récit de filiation d'Édouard Louis. Celui-ci a récemment rebondi avec « Qui a tué mon père ?», où le fils est reconduit vers le père à l'heure où celui-ci, atteint par la maladie et victime de sa condition, est complètement dépouillé de son rôle viril. Or, que reste-t-il après le rôle, un père et un homme? Venons-en au cas moyen, celui qui s'incarne dans les pères effacés, silencieux, souvent pris dans l'ordinaire des métiers de la classe moyenne ou de la petite bourgeoisie, qui réside dans les banlieues et les villes de province. On pense à celui de Pierre Bourguignoux, qui apparaît dans plusieurs de ses récits, notamment l'orphelin. C'est lui, l'orphelin taciturne, mélancolique, empli d'humour noir, qui aspire à se transvaser au fils. À ce dernier, il laisse le vif regret de l'impossible entretien qui eût rapproché les deux êtres, dissipé le mystère de la condition héritée, si bien que le fils sera longtemps obligé de chercher ailleurs une issue et la lumière, du côté de l'autre branche, le grand-père maternel notamment, et des intercesseurs du savoir, hommes et livres. Car ce qui manque d'abord à se transmettre est une parole nette et éclairante. La diminution virile et paternelle se marque également dans le corps lui-même, engoncé dans l'habit, reculant dans l'ombre et dans une sorte d'amuisement. Le tout début de la Toussaint est fort symptomatique. Il représente ce père, plus taciturne qu'à l'accoutumée, tassé au volant de la 4CV qui, par une froide et sombre matinée de Toussaint, conduit sa famille au cimetière familial pour la triste équipée annuelle. Dans ces mêmes demi-tons, on pourrait citer le récit de Jean-Michel de la Comté, Écrire pour quelqu'un. Celui-ci s'ouvre sur la contemplation d'une photo en noir et blanc retrouvée par le narrateur et qui va lui servir de fil directeur. Il figure le père et le fils marchant ensemble dans une rue de Paris. Le premier signe relevé est insolite, c'est le cuir, celui des chaussures aux semelles épaisses du père et celui de sa sacoche, renfermant le fait de livres qu'il porte et qu'il a prématurément voûté. Celui-ci était représentant en librairie, ne se déplaçait qu'à pied car il souffrait d'une déficience visuelle. Il est de complexion chancelante et n'a connu qu'une seule femme, son épouse, qui a aimé en lui son courage. À ses limitations physiques s'ajoute le défaut d'expression que le narrateur impute à la tradition. Je cite « gêne virile de traduire ses émotions en paroles aussi bien qu'en gestes ». Mais là n'est pas l'essentiel qui tient à autre chose, au peut-être des pères, alors nébuleux, mais aussi à une méconnaissance, une désynchronisation faisant que, se dérobant de leur vivant, ils ne se connaissent qu'après coup. La vérité d'un père s'éclaircit après quand il n'est plus, sa virilité aussi. Assurément, cette proposition, largement illustrée dans le récit de filiation contemporain, paraîtra étrange tant la virilité est spontanément associée à la notion d'épreuve, connue, publique, et à la démonstration du moment, qu'il s'agisse d'agone glorieux ou de vulgaire état. Dans tous les cas, un haut fait et une parole haute se signalent, retiennent l'attention, de sorte que le régime de représentation attendu est celui de la scène, celle qui donne à voir des êtres parlants et agissant devant nous, depuis la haute tragédie jusqu'aux interactions les plus ordinaires qui forment l'étoffe de la vie quotidienne, et que les interactionnistes, à commencer par Goffman, nous ont appris à décoder comme autant de petits théâtres où sont actés des rôles, observés ou enfreintes des normes sociales naturalisées. Il faut donc poser une virilité d'après-coup, moins vue que reconnue, fût-ce post-mortem. Dans les textes qui nous intéressent, elle se propose comme vertu, conservant donc le lien avec l'accomplissement qui est au cœur de la virilitas, et on le situera du côté de la rection plutôt que du côté de la pureté, du moins celle qui est de l'espèce exhibée. Plusieurs écrivains d'aujourd'hui, je pense par exemple à l'Africain de Le Clésio, autre récit sur le père, pourraient souscrire aux formules de la Comté. Je cite « Mais c'est aujourd'hui seulement que je perçois clairement la tendresse qui soutenait l'éducation affable et rigoureuse dont il vantait les bienfaits, désireux de me consolider face aux aléas de l'existence et trempant mon caractère, tout en essayant de faire de moi un honnête homme. Sa réalité émerge enfin du passé, dépouillé de l'indistinct qui enveloppe les pères, même lorsqu'ils se veulent proches de leurs enfants. » Fin de la citation. En dernier se présentent les héros, précisément parce qu'ils manquent à l'appel. Leur déclin, parallèle à celui des grands récits qui ont porté les générations précédentes, est l'un des traits de l'époque contemporaine. Celle-ci, gagnée par le soupçon, vit la face sombre et amère de la modernité, selon la formule de Laurent de Mans, qui, dans Encre orpheline, a diagnostiqué un malaise dans la transmission, dûment enregistré par le récit de filiation. Le descendant s'y cherche entre modèle et contre-modèle. Détaché des communautés, il n'hérite plus naturellement d'une tradition et se trouve livré à la foule des ombres. Comme écrivain ou aspirant à la littérature, on l'a vu chez Michon, il se sent accablé par la masse des antécédents, nécessairement débiteur à leur endroit, doutant de se frayer une voie parmi les auteurs et toujours guetté par l'imposture. À cela s'ajoute la mélancolie du tard venu, alors que sont passées les grandes occasions historiques d'affirmation virile de soi. Jean Rouault, l'auteur des Hommes illustres, en fait le constat pour lui-même. Lui, l'orphelin, pris dans le malheur de sa mère, l'écrivain tardif, maintenu longtemps dans le commerce des morts de la famille. Son père fut de ces hommes illustres, de haute taille, intrépide réfractaire du STO. Il s'illustra dans les faits de résistance qui lui valurent le surnom de Joe le Dur. Voilà la dureté retrouvée avec son expression idiomatique. La guerre a longtemps servi de mesure à la grandeur virile et on se demande combien de temps encore elle servira de référence aux fils d'Europe, d'Europe de l'Ouest, heureusement préservée d'elle, faudrait-il ajouter. On s'étonne qu'elle se tienne encore là, à l'horizon antérieur des écrivains d'aujourd'hui. Outre Jean Rouault, je pense à Laurent Mauvignier, des Hommes avec la guerre d'Algérie, et plus encore au Siècle des nuages de Philippe Faure. Voilà un livre où l'on reconnaît le modèle épique, transféré au père, dès le prologue citant le fameux vers de l'Énéide, Arma virumque cano. Ses armes et ses combats, ce sont eux de la Seconde Guerre mondiale à laquelle a participé le père de Philippe Faure, quoique de manière particulière, en convoyant des femmes au moment de l'exode en juin 40, puis à distance aux États-Unis, où sa formation de pilote s'achève trop tard pour qu'il participe au combat. Mais débordant la guerre en amont comme en aval, la véritable épopée se déroule ailleurs, dans le ciel que désigne le titre « Le siècle des nuages », d'après une citation d'Apollinaire. Ce ciel est le théâtre de la grande aventure aéronautique du 20e siècle, depuis les premiers hommes volants jusqu'aux réalisations les plus modernes, comme le Boeing 747 qu'il a été donné au père de piloter aux heures glorieuses de la compagnie Air France. Aux dimensions entières d'un siècle, un référent national et même supranational est bien là, qui est traversé par un idéal, celui de relier pacifiquement les hommes et les continents. Cependant, une chose est le référent épique, autre chose est la capacité de Laëde à assumer le champ. En effet, sa voix à lui, sa première personne, est peu assurée car il est en proie au doute, menant, pour quelle communauté, une entreprise menacée de vanité. De quel droit celui qui raconte, raconte-t-il? Plus d'un auteur, alors même qu'il fait œuvre de mémoire, écrit dans une intention de restitution, suivant la morale de guerre, du genre, et s'interroge sur la légitimité. Philippe Faure est de ceux-là. À cet égard, il y aurait au moins deux manières contrastées de considérer le récit de filiation. On peut y voir une entreprise douteuse, une sorte de captation d'existence. Je cite « C'est moi qui me souviens, Arma virumque cano, quelqu'un d'autre que lui met des mots sur l'histoire et qui la sort du vide au fond duquel elle ne demandait qu'à disparaître doucement, rejoignant toutes les autres au sein de l'indiscernable rumeur où elles se mêlent enfin. » Ce quelqu'un qui se souvient a déçu les espoirs de son père en ne lui succédant pas dans le ciel comme pilote de ligne. Sa notoriété à lui, d'écrivain donc, repose sur le vide et le vent des mots. Cependant, cet être de peu de poids, bien qu'il soit au-dessous de son sujet, malgré ses doutes, son incroyance, doit cependant s'inscrire en quelque façon dans le livre qu'il écrit, quand bien même il y diminue sa place et retarde son apparition, comme actant du récit. Il est aussi amené à s'y dépeindre un minimum, comme par hasard, il est du signe des Gémeaux, signe d'air. D'autre part, le sujet de l'écriture est amené à établir des correspondances, qui sont une des raisons d'être de ce genre de texte et qui relèvent de ce que l'on nomme communément l'héritage. Le legs abstrait consiste en des valeurs qui sont transmises aux descendants, comme le goût de la liberté reçu de lui. Des longs voyages dans lesquels il l'entraînait, il a tiré une leçon de souverain détachement à ces hauteurs vertigineuses où filent les avions. cette place du fils, auteur et responsable du récit de l'ascendant, on devine qu'il y a bien des manières de l'occuper, et l'un des enjeux du genre est précisément la négociation de ces deux places, celle du « il » et celle du « je », pour le dire en termes grammaticaux, mais c'est le cœur de l'affaire. Partage au terme duquel le livre du père doit être, en quelque façon et à proportion du degré d'autobiographie, voulu ou autorisé, livre du fils. Il y a là un fait structurel qui vaut pareillement pour le livre des filles. À l'opposé exact de Philippe Forêt, l'autre option consisterait à s'emparer crânement de cette place du père et à parler à sa place. C'est exactement ce qu'a fait Pierre Pachet dans « Autobiographie de mon père », par un coup de force rare mais justifié. Il explique avoir été habité par les paroles et la voix de son père. « J'avais cette voix en tête, je n'avais même qu'elle, elle était en moi, la voix la plus spontanée. » Dans ce parti extraordinaire, il faut voir, poussé à son extrême limite, la capacité humaine à se projeter en autrui, capacité que, nous dit Pachet, son propre père possédait. Cela débouche ici sur l'invention d'un « je » spécial, mixte du père et du fils. À Pierre Pachet, nous pouvons emprunter une autre réflexion qui semble trouver confirmation dans un certain nombre de récits. Je crois qu'il faut souvent deux générations pour faire un individu. Cette formule, Pachet l'applique à lui-même, estimant que son père, doué d'une grande pénétration psychologique, portait en lui un écrivain. La vocation intellectuelle du père serait ainsi accomplie par le fils. Concluons ce rapide parcours par trois remarques. Premièrement, la tripartition d'esprit sartro-brucknerien, que nous avons suivi ne manque pas de s'illustrer, et en parcourant le corpus actuel des récits de filiation, l'amateur de typologie trouverait facilement maintes variantes intéressantes du salaud, du médiocre et du héros. Et aussi, cela doit être dit, des figures qui n'illustrent aucun de ces cas. Ces trois qualifications sont trop simples pour n'être pas complétées, corrigées, nuancées par les cas concrets. De même pour l'imposture virile, si elle était prise comme assomption culturelle globale. Deuxièmement, j'observe que le troisième tome de l'excellente Histoire de la virilité, portant sur les 20e et 21e siècles, fait une large place aux pratiques sociales décrites aux images, aux écrans, mais pratiquement aucune à la littérature. Or, celle-ci est aussi description et même ethnographie, par exemple Éribon, Édouard Louis, et porte la trace, sinon le témoignage de la virilité en crise qui est au centre de ce volume. Bien plus, elle l'interroge dans le récit des fils, qui est statutairement le récit de filiation, récit très majoritairement véridique qui se rattache à l'autobiographie ou en constitue une forme indirecte. Par ailleurs, ne perdons pas de vue que les récits de filles portent également cette interrogation. Annie Ernaux serait ici le cas d'école. De cette absence littéraire, on pourrait se consoler en notant qu'au fond, il n'y a, d'après ses œuvres, rien de très nouveau sous le soleil de la virilité. Abordée par la voie de la paternité, mais comment éviter cette voie royale, celle-ci conserve ses caractères reconnaissables. On y constate la rémanence de l'ordre ancien, comme si le monde de la transmission symbolique, toujours pyramidale, était dévolu au père. Or, les psychologues expliquent que la famille horizontale, Serge Hefez, d'aujourd'hui, répond aux besoins des parents de participer ensemble au monde de la transmission symbolique. Cela signifie-t-il que le récit de filiation le plus actuel est antidaté dans ses structures mentales, ou bien que les modèles du masculin et du féminin restent d'une très grande puissance? Nous ne pouvons sauter par-dessus notre temps pour deviner dans quel esprit s'écriront demain les récits de filiation issus des fils et des filles, des actuelles familles horizontales qui ne seront pas toutes les familles. Troisièmement, cependant, nous ne pouvons qu'être requis par la manière dont une certaine littérature contemporaine, dont le propos même est de démêler un héritage, entreprend la question de la virilité. Il y a déjà une grande instruction dans le fait, c'est la force du récit, de rapporter celle-ci à la totalité d'un parcours biographique, celui d'un sujet qui est compris avec ses déterminations propres, de genre, de classe, d'époque et de lieu. Et comme le livre du père est immanquablement aussi livre du fils, c'est sur l'étendue de deux vies que s'apprécie la paternité et la masculinité, de même pour leur symétrique, maternité et féminité. Là, à part de la virilité iconique, en acte, jouée dans des scènes codées, il y a place pour d'autres formes de virilité qui ont souvent pour effet de dépouiller la première de ses attributs les plus voyants. Ainsi, plus d'une fois dans ses textes, par l'opération du temps et en quelque sorte par décantation, se dégage une vertu qui conserverait quelque chose de l'ancienne virilitas, peut-être l'essentiel, une morale, une direction de vie ou une rection, un accomplissement qu'il faudrait dire, comme y invite Pierre Pachet, non pas d'un homme ou d'une femme, mais d'un individu. le fait d'écrire, d'entreprendre le récit, il en coûte souvent à l'auteur ou à l'auteure, fait partie du processus d'individuation.